Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve pour la dernière partie de Clap. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Stéphanie Belpech du Journal du Dimanche et Thierry Chaise de Première. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Thierry Chaise qui met en une de Première Eddie Murphy. Et justement, on va en parler dans un tout petit instant pour Un Prince à New York numéro 2. On débattra aussi de Jojo Rabbit qui arrive sur My Canal, de Call Me By Your Name, ça c'est sur Netflix, et de Mon Roi, puisque c'est sur OCS et que je me suis dit que ça faisait du bien de reparler un petit coup de ce film. Tout simplement. Mais commençons donc avec Un Prince à New York 2 sur Prime Video, 33 ans déjà après Un Prince à New York. Retour donc d'Eddie Murphy.
Bonjour, je suis Hakim Joffer, roi du Zamunda. Vous êtes l'héritier du trône.
Oui, mon fils.
Il est quasiment prêt à devenir prince.
Quasiment.
Venez.
Circoncision cérémonielle.
Amenez la machette royale.
La machette.
Ils vont tailler ton outil, mon neveu.
Alors, dans Un Prince à New York, vous en rappelez sans doute, Eddie Murphy était son Altesse Hakim Joffer à la recherche de l'amour. Et bien, dans cette suite, il est devenu monarque, plus âgé évidemment, et il revient dans Big Apple pour chercher son héritier perdu qui devrait sauver son royaume africain à moitié fictif. Il l'emmène donc avec lui au Zamunda, où on va se rendre compte que sa fille aimerait lui succéder, mais que le royaume refuse qu'une femme soit sacrée. Voilà, vous rajoutez aussi dans tout ça un général qui rêve de prendre le pouvoir. Vous avez la toile de fond, bon, c'est pas tellement pour l'histoire. L'ambiance, est-ce que au moins pour l'ambiance, il faut regarder ce film, Stéphanie ?
Bah, écoutez, oui, j'ai pas boudé mon plaisir, même si c'est quand même un trip complètement régressif.
Ouais, hein. Ça, c'est sûr.
C'est vrai qu'à l'époque, ce film avait littéralement intronisé Eddie Murphy, fort de ses succès passés avec Le Flic de Beverly Hills,
oui.
48 heures et un fauteuil pour deux. Et c'est vrai que là, on retrouve la star à 59 ans.
Il n'a pas changé d'humour.
Non, et puis
ni de visage. C'est pas Benjamin Button.
Voilà, exactement. Il n'a pas pris une ride. Il a toujours son sourire XXL. Cette propension aussi à jouer les second rôles déguisés, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Cette bouffonnerie qui faisait partie de son personnage aussi. Et voilà, il a toujours cet abattage. Bon, par contre, je dois dire que là, alors je ne sais pas si c'est le décalage temporel, j'ai trouvé que les gags étaient quand même très lourds, voire très vulgaires, il faut le dire. Après, j'ai bien aimé le fait que ça tacle un petit peu le sexisme, on sent que ça veut se raccrocher à une actualité, voilà. Le casting est plutôt marrant. Wesley Snipes, là aussi, il revient de... Il y a des années-lumière qu'on ne l'a pas vu. Morgan Freeman aussi. Enfin, voilà, c'est plutôt sympa. Mais après, bon, ça vole pas haut quand même. Hein.
Plutôt sympa, c'est bien résumé. Thierry, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, si on aime Eddie Murphy, on va se régaler parce qu'il y a tout. Ce qui est intéressant, c'est en effet le fait de le faire aujourd'hui. Il y a une scène que j'aime beaucoup au début quand le fils bâtard Eddie Murphy est reçu pour un boulot par un employeur blond et qui résume à peu près toute la gêne qu'il peut y avoir. Ça résume toute une époque. Il y a cette volonté-là, pareil avec le rôle des femmes.
Oui.
Et en même temps, il y a une volonté, je trouve, par rapport au premier film, de se mettre lui beaucoup en retrait. On voit beaucoup plus, finalement, les autres. Alors, à la fois les anciens, James Earl Jones, et les petits nouveaux. Et je trouve qu'il y a une sorte de passation de pouvoir de celui qui a été vraiment une star, la première grande star de comédie noire et tout, qui est intéressant de ce point de vue-là. Après, si vous n'aimez pas Eddie Murphy, c'est pas ce film-là qui va vous faire apprécier. En effet, c'est lourd, mais ça a toujours été un petit peu lourd. Voilà. Mais lui, bon, c'est un régal.
Ça devait sortir au cinéma. Et finalement, ça débarque sur Prime Video. Bon, ça aurait été sympa au cinéma, mais c'est pas non plus un scandale de le découvrir dans son salon le soir. Voilà.
Non.
Un Prince à New York, numéro 2, et vous trouvez ça sur Amazon Prime Video. Je voulais aussi qu'on parle, parce que ça débarque cette fois sur My Canal, de Jojo Rabbit. Je crois qu'on en avait pas mal discuté, les amis, ensemble à l'époque, signé Taika Waititi.
Les garçons, on va vous apprendre des jeux de guerre, tirer au fusil et faire exploser des engins.
Tu savais que les Juifs savent lire dans les pensées. Mais comment tu le reconnaîtras si t'en vois ?
Tu sais ce que je suis ?
Une juive.
Tu n'es pas un nazi. Tu es un garçon de 10 ans qui veut faire partie d'un club.
Alors écoutez bien le pitch. Jojo, c'est un petit Allemand que l'on retrouve au début du film dans un camp de la jeunesse nazie. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. On lui demande de tordre le cou d'un lapin pour le tuer. Jojo refuse et il devient donc Jojo Rabbit, la moquerie de ses petits camarades. Il parvient à s'enfuir, on le retrouve chez lui. C'est devenu un fervent nationaliste puisque son meilleur ami imaginaire que l'on voit à l'écran, il dialogue avec lui, hein. C'est Hitler, rien que ça. Alors quand Jojo découvre que sa maman cache dans les combles de la maison une jeune juive, eh bien il est complètement déboussolé. Voilà, on est dans la satire, dans un film sur fond de comédie, mais qui dénonce quand même pas mal de nationalisme. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment, c'est pas inutile. Le fanatisme aussi. Thierry Chaise, est-ce qu'on voit ou revoit Jojo Rabbit ?
Alors, non, moi je ne le revois pas. Moi j'avais été tellement déçu. J'avais aimé le début.
Ah, je l'attendais pas,
celle-là. Je trouve le début, je me dis c'est dingue d'aller faire une comédie là-dessus. C'est vraiment épatant d'y aller à fond sur un sujet qui n'appelle pas vraiment la comédie. Et puis finalement, en effet, ça n'appelle pas la comédie et on revient dans un film. Alors, il y a plein de bonnes intentions, de nouveau, je critique, mais ce film-là, plein de bonnes intentions, plein de dénonciations et on va tous y avoir droit. J'ai pris mon petit cahier, j'avais noté, il y avait toutes les croix, j'ai retourné, j'ai fait un recto verso, il y a tout. Du coup, moi, je suis pas franchement, c'est pas non plus La vie est belle de Benigni. C'est pas non plus Mel Brooks, c'est entre les deux, et moi c'était ni fromage ni dessert pour moi.
Bon, bah vous voyez, je pensais pas. Jojo Rabbit, Stéphanie.
Quel dommage, moi j'avais beaucoup aimé.
Voilà. C'est bien, on se dispute.
Mais j'aime beaucoup la personnalité de Taika Waititi, parce que déjà,
étonnant, hein.
Pour Vampire en toute intimité, il pulvérisait les codes de ce genre, et de même manière, il avait fait un petit tsunami chez Marvel avec Thor Ragnarok, où là il dépoussiérait complètement le mythe très sérieux mis en place par Kenneth Branagh. Et c'est vrai que là j'ai vraiment beaucoup accroché à son humour corrosif, son irrévérence, et il trouve l'équilibre parfait entre la satire et la tragédie, parce qu'il filme à hauteur d'enfant, et du coup ça décuple l'émotion. Enfin, moi je sais que j'ai pleuré à une séquence très émouvante quand il découvre un membre de sa famille, voilà, que je ne spoilerai pas, qui ne survit pas à la guerre. Et moi j'ai trouvé qu'effectivement ça marchait plutôt bien, c'était original et très culotté, comme disait Thierry tout à l'heure. Mais moi il m'a pas perdu, au contraire, j'étais bonne spectatrice.
Comme souvent, la vérité est entre vous deux.
Non, mais c'est bien. Que
le début est très efficace, la deuxième moitié un peu moins, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter, Thierry.
Mais j'ai le souvenir que justement les critiques étaient assez dans un sens ou dans un autre quand même. Donc, mais c'est bien, tant mieux.
Bon, Jojo Rabbit, vraiment, faites-vous votre avis, vous allez voir ça sur My Canal. Sur Netflix maintenant, on a parlé de Prime Video, de My Canal, on arrive sur Netflix, on va parler de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, et ça c'est porté notamment par Timothée Chalamet.
Pourquoi tu me dis tout ça ?
Parce qu'il fallait que tu le saches.
T'essaies de me dire ce que je crois.
J'aurais dû rien dire.
Fais comme si t'avais rien dit.
Alors on continue à se parler, mais pas entièrement.
Je veux dire qu'on ne peut pas parler de ces choses-là.
Alors là, faut vous mettre dans l'ambiance, les amis. On est à l'été 1983, sous la chaleur et la belle lumière de l'Italie. Elio, c'est donc Timothée Chalamet à 17 ans. Il profite de ses vacances dans la maison familiale. Voilà, il lit, il flirte avec une jeune et jolie jeune fille qui s'appelle Marzia. Il joue de la musique, c'est la Dolce Vita. Il est avec ses parents, des gens très lettrés. Son père est professeur spécialisé dans la culture gréco-romaine, sa maman traductrice. Lorsqu'un jour va débarquer un bel Américain, séduisant, qui vient préparer son doctorat, aidé donc par le père d'Elio. Et ensemble, Elio et cet Américain, eh bien, je ne vais pas trop en dire, mais ils vont découvrir tout simplement le désir homosexuel, malgré la différence d'âge. C'est vraiment un film sur le désir au sens propre, physique, charnel. Stéphanie ?
Ce film fait partie de ceux dans lesquels on aimerait vivre.
Ah, oui.
En fait, c'est cette lumière méditerranéenne, cet éveil du désir, de la sensualité, l'érotisme qui règne dans ce film. Enfin, moi, j'ai été complètement conquise par l'écriture très subtile. Il faut rappeler que c'est James Ivory qui a écrit, avec toute cette délicatesse qu'il caractérise, la dénonciation évidemment du tabou que reste l'homosexualité dans les années 80 avec un homme qui ne peut pas assumer sa relation. Et effectivement, le personnage de Timothée Chalamet qui, lui, découvre l'amour, tout simplement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, de délicatesse dans ce film. Et enfin, moi, il y a une séquence magnifique qui restera à jamais, pour moi, gravée dans ma mémoire. C'est le père bienveillant et tolérant qui explique la vie à son fils. Et rien que pour cette séquence, il faut revoir le film. C'est là encore, j'ai pleuré.
Et c'est donc là que Thierry va briser vos rêves avec Call Me By Your Name.
Oui et non.
Voilà, vous voyez, je le connais maintenant.
Non,
l'opposant.
Parce qu'à l'époque, j'étais complètement... quand je l'ai vu, je pourrais dire les mêmes mots qu'a dit Stéphanie, en particulier cette scène avec le père, toute l'écriture, le plaisir qu'on a à être là-bas. Et en fait, en le revoyant et en ayant vu d'autres films de Luca Guadagnino depuis, je trouve que à la réalisation, il y a quand même un côté, il y en a un peu plus, je vous mets quand même, oui, ben le ça. Monsieur Plus. Bon, quand on a vu, moi j'avais pas vu son remake de La Piscine, je l'ai vu depuis, quand on voit Suspiria. En fait, moi, mon film préféré de Guadagnino, c'est Amore, avec Tilda Swinton, où oui. Et après, je trouve qu'il y a toujours... Allez, parce que ça plaît aussi, et c'est juste ce bémol-là. Mais évidemment, je fais le grognon, et je sais que là, je suis dans la minorité, mais voilà, c'est... Si vous n'avez jamais vu de Guadagnino, je pense que vous allez adorer. Sinon, voilà.
Et y a une suite non, qui est en préparation, je n'avais pas vu passer ça.
Ben oui, mais alors c'est un petit peu dans la tourmente, puisque ce pauvre Armie Hammer, enfin, oui. On ne sait pas si les rumeurs à son sujet sont avérées de sexualité débridée, cannibalisme, etc. Donc,
ce qui rend compliqué un financement sur son nom.
Bon, alors en attendant, donc, regardez Call Me By Your Name, qui n'aura peut-être pas de suite, et vous trouvez ça sur Netflix. Et puis je voulais qu'on termine aussi en redisant un mot de Mon Roi, le film de Mai Wen, porté notamment par Vincent Cassel et Emmanuel Berco, tout simplement parce que lui débarque sur OCS.
Tu cherches quoi exactement? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux?
Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, personne fera de crise,
il n'y
aura pas de larmes.
Quand on aime, on souffre.
Bah ouais.
C'est pas facile.
Mais toi, tu souffres pas beaucoup.
Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens, tu me fais chier, quoi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens?
Alors là aussi, on va faire un résumé assez simple. Emmanuel Berco, elle joue Tony, on la découvre au début du film dans un centre de rééducation après une chute de ski. Elle est vraiment cassée au sens propre du terme, aussi bien physiquement que psychologiquement. Le personnel médical tente de la remettre sur pied. Et pendant ce temps-là, elle va se remémorer ses 10 ans de passion amoureuse destructrice, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'elle a vécu avec Giorgio, c'est donc Vincent Cassel. Je me rappelle du débat à la sortie de la salle cannoise, est-ce un pervers narcissique ou non? Depuis, ce terme a été utilisé à de nombreuses reprises dans toutes les situations. Je ne sais toujours pas si c'est un pervers narcissique ou non, mais c'est en tout cas l'histoire d'une destruction puis d'une reconstruction pour cette femme. J'espère que vous allez être d'accord sur celui-là, Stéphanie.
Moi, j'aime beaucoup le film, oui. Et ce qui me frappe toujours chez Mai Wen, c'est son écriture qui est d'une lucidité implacable et en empathie avec ses personnages. Si bien qu'à chaque fois, on a l'impression de pénétrer dans leur intimité et qu'ils improvisent, que les acteurs improvisent, alors qu'au contraire, tout est très bien écrit. Mais on a l'impression de saisir des instants de vérité de ce qui se passe entre ces deux personnes. Et là, en l'occurrence... Cette passion amoureuse destructrice, enfin moi j'ai trouvé que c'était ça m'a vraiment choqué émotionnellement.
Vous avez
pleuré encore ? Bah en tout cas, j'ai trouvé ça très très douloureux parfois parce que les affrontements sont terribles.
C'est
très violent et surtout elle représente toujours des personnages qui sont en mal d'amour, ouais. En fait. Elle dit elle-même que c'est un sujet qu'elle maîtrise alors que les gens heureux quelque part elle n'arrive pas à raconter cela au cinéma.
Mon Thierry, celui-là, alors, Mon Roi, vous l'achetez?
Déplaisant, malaisant, donc formidable.
J'ai eu peur. Non, mais qu'est-ce qui nous prépare?
Et non, c'est ça qui est formidable. C'est que c'est vraiment des films qui nous prennent à rebousse-poil, qu'on a envie d'arrêter par moments tellement, justement. C'est juste, c'est un naturel qui déborde, tellement on se demande ce qui est écrit, ce que les acteurs jouent. C'est remarquablement porté. Par les acteurs. On voit l'arrivée en son cinéma de Louis Garrel, qu'on retrouvera ensuite dans ADN, qui apporte une petite touche pour se faire souffler un moment, mais c'est ça qui est très fort chez elle. Alors, c'est épidermique, moi je peux comprendre ceux qui n'aiment pas du tout son cinéma, mais alors quand on a la chance d'aimer, c'est vraiment un voyage à chaque fois où on accroche sa ceinture et on se demande où on va. Non, moi je suis très impressionné par ce qu'elle fait.
Bon, Mon Roi, c'est signé Mai Wen, c'est sur OCS, et d'ailleurs vous parliez d'ADN. Normalement, on le retrouvera dès que les salles rouvriront. Il ressortira, ça fera partie de ses premiers films à ressortir en salle et qu'il faudra les découvrir à la fois parce que ça vaut le coup et puis pour aider nos salles de cinéma. En tout cas, d'ici là, vous pouvez regarder Mon Roi sur OCS. On a aussi parlé de Call Me By Your Name, ça c'est sur Netflix, de Jojo Rabbit sur MyCanal et du Prince à New York, numéro 2 sur Prime Vidéo. Les amis, merci Stéphanie Belpech du Journal du Dimanche, Thierry Chaise de Première, je le redis, dans le nouveau numéro. Mais Eddie Murphy, vous avez une longue interview d'Eddie Murphy, mouvementée, si j'en crois les propos dans l'interview. C'est le journaliste n'a pas été épargné, mais en tout cas, ça donne une interview très intéressante. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, émission que vous retrouvez évidemment en podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter, nous réécouter, nous commenter, nous noter. On est là pour ça. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, 14h-15h sur Europe 1.
Europe 1.